Brigitte Cholvy, vous êtes directeur du cycle C, enseignante en théologie, et vous avez écrit une thèse sur Henri de Lubac. Henri de Lubac et le surnaturel. Le surnaturel, qu'est-ce que c'est ?
Alors ça c'est une vraie question, parce que dans le langage commun, dans le langage courant entre nous, le mot surnaturel, ça fait penser à tourner des tables, des fantômes, enfin, etc. On a tous des images et des films même auxquels on peut penser et qui ont à voir avec le surnaturel. Évidemment, quand Henri de Lubac, au milieu du siècle, au milieu du XXe siècle, écrit ses grands livres sur le surnaturel et travaille sur la question de la théologie du surnaturel, c'est pas de ça dont il parle, c'est bien évident.
À quoi pense-t-il ?
Il pense, je crois, à essayer de dire en quoi l'homme est toujours, du fait même d'être homme, appelé par Dieu. Ce qui veut dire que ce n'est pas encore la question de l'acceptation ou du refus de chacun. Dire oui, je crois à cette bonne nouvelle, elle change ma vie, ou non, je n'y crois pas, ou non, je ne peux pas y croire. C'est en deçà même de cette prise de position, de ce choix, de cette option, aurait dit de Lubac, c'est en deçà. C'est le fait même d'être créé, d'être homme, il y a déjà dans la nature humaine quelque chose qui la destine à Dieu. Alors, tout le débat autour de Lubac, c'est que justement, on ne peut pas être simplement destiné de soi, comme ça, à Dieu. C'est un second temps dans la création qui conduit à cette destination, en quelque sorte, à cet appel et à ce désir, pour reprendre les termes à la fois augustinien et thomasien, à ce désir de voir Dieu. Voilà.
À ce désir de voir Dieu qui s'inscrit dans une liberté.
Bien sûr, et dans une possibilité de dire oui ou non. Cet appel étant posé par Dieu, la possibilité de dire oui ou non à cet appel, d'y répondre ou de ne pas y répondre.
Qu'est-ce que Henri de Lubac apporte d'original à cette réflexion ?
Alors, je crois qu'il apporte deux choses d'original. Il faut le resituer au milieu du siècle, au milieu du XXe siècle. Il apporte d'abord le fait de reposer la question d'une manière massive et en disant qu'elle est centrale à la foi chrétienne. Que cette question n'est pas une des questions parmi de nombreuses questions, mais qu'elle est structurante pour la foi chrétienne. Ça, il apporte cette prise de position-là, disons. Et c'est une petite révolution qu'il fait quand même au milieu du siècle. Et il est suivi par d'autres personnes, bien sûr, mais c'est une petite révolution. La deuxième chose qu'il apporte, et qui est plus difficile, plus délicate encore, c'est qu'au fond, il cherche à dire que vraiment, il appartient à tout homme d'être appelé. Et en même temps, il faut que ce soit dans la liberté. Donc on peut très bien dire qu'il suffit de distinguer les deux et de les séparer, et c'est tout. Et à partir de là, on invente un homme qui peut vivre sans Dieu, en quelque sorte. Le souci de Lubac et la difficulté, et les raisons aussi des controverses qu'il y a eu autour de ces prises de position, autour de la question du surnaturel précisément, c'est de dire que cet appel est vraiment le fait même d'être humain. Et là, c'est le lieu d'un débat qui continue aujourd'hui encore. Mais là encore, il ouvre à quelque chose qui invite à reconsidérer d'une certaine manière l'anthropologie chrétienne.
Sur quoi elle se fonde, cette anthropologie chrétienne, selon Henri de Lubac ?
Alors, je pense que, pour le dire là encore d'une manière un peu resserrée, elle se fonde sur le fait que c'est par sa destinée que l'homme prend son sens. On dirait aujourd'hui, si on parle en vocabulaire théologique, on dirait que c'est par l'eschatologie que la création prend son sens. Lubac ne parle pas comme ça, parce que là, c'est parlé en 2010 que de dire les choses de cette manière. Mais ce qu'il dit, et là pour le coup je crois vraiment qu'il dit cela, c'est que l'être humain prend son sens du fait même de son appel, toujours déjà posé, en direction de Dieu. Donc par le fait même qu'il y a de la destinée dans la vie humaine, qu'il y a du sens et de la destinée, qu'on peut reconnaître, qu'on peut méconnaître, qu'on peut accepter, qu'on peut refuser. Après, toutes les positions sont possibles. Mais ce qui veut dire qu'on ne regarde plus l'être humain comme étant à une origine et avec une histoire, mais qu'on le regarde comme étant appelé, et donc avec une histoire, et donc avec une origine. Vous voyez, c'est le sens dans lequel on regarde les choses qui change, mais qui change tout aussi.
Donc on le regarde à partir de la destinée, ouais. Et non pas à partir de l'origine.
Exactement.
C'est là l'originalité de Lubac ?
Je crois qu'on peut le dire comme ça, oui. Parmi d'autres choses, hein. Il y a d'autres choses encore chez de Lubac, en exégèse, en histoire. Mais sur la question du surnaturel, il me semble que son originalité peut être là, oui.
Quand vous dites sur la question du surnaturel et sur la question de l'homme aussi, donc l'homme qui est situé autrement.
Tout à fait.
Vous êtes à Rome parce que vous avez parlé d'une controverse.
Oui.
Laquelle ?
Alors, justement, la controverse autour de cette manière de voir les choses. Parce que ce qui compte de dire, une fois qu'on a dit les choses comme ça, c'est de dire que l'homme est bien libre, et c'est de dire aussi que Dieu est bien libre. Ni l'homme, ni Dieu ne sont obligatoirement dans ce mouvement qu'on vient de décrire. Ils y sont, et notamment Dieu y est, par son propre choix, par sa propre détermination. Il n'y a pas d'obligation, par le fait de la création, à ce que l'homme soit appelé. C'est la grande controverse d'Humani Generis en 1950 qui est posée là. Donc voilà, le sujet du débat qu'on a eu il y a quelques jours tournait autour de comment les uns et les autres, et évidemment il y a eu diverses positions autour de cette question, comment est-ce qu'on arrive à penser à la fois un appel, un lien congénital, hein, c'est l'expression de Lubac, entre la nature et le surnaturel, et en même temps une totale gratuité de ce que Dieu donne. Comment on arrive à articuler ces deux choses qui paraissent être contradictoires, naturellement?
Comment est-ce qu'on arrive, alors?
Je pense que Lubac y arrive en montrant que c'est justement par la fin, par la destinée, par l'eschatologie, que l'ensemble doit être regardé.
Alors pourquoi ces controverses? Sur quoi est-ce qu'on a voulu contredire, ou du moins s'opposer à Henri de Lubac?
Peut-être sur deux choses, je crois, on peut le dire. D'une part, sur le fait que Lubac choisissait pour réinsérer dans la tradition sa position, il a choisi de reprendre toute la lecture de saint Thomas. Saint Thomas d'Aquin, bien sûr. Et donc là, premier lieu de la controverse, c'est comment lit-on saint Thomas d'Aquin? Deuxième lieu de la controverse, comment est-ce qu'on arrive à sauvegarder l'idée d'une gratuité des dons de Dieu? Comment, autrement dit, dans tout ce qu'on dit, à aucun moment, on ne contraindrait, c'est au conditionnel hein, même, on ne contraindrait Dieu à quoi que ce soit. Voilà, les deux lieux de la controverse, à mon avis, sont là. Ce sont deux lieux très différents. Hein. Il y en a un qui est un lieu de la lecture de la tradition, de la lecture de saint Thomas, et il y en a un autre qui est une question à la fois métaphysique et de théologie.
Une question à la fois métaphysique et de théologie, mais une question que chaque chrétien rencontre aujourd'hui.
Bien sûr, voilà.
Et qu'on pourrait traduire comment?
Et qui est une question, à mon sens, tout à fait existentiel. Et un des grands paramètres hein, dans la réflexion de Lubac, mais avec d'autres, hein, avec Danielou, avec Balthazar, avec Fessard, avec Bouillard, vous voyez, avec d'autres théologiens français de ce milieu du XXe siècle, un des grands paramètres de ces grands théologiens a été d'être très attentif à l'expérience religieuse. Pas seulement au discours théologique, mais à l'expérience religieuse. Non pas pour les opposer, encore une fois, mais pour, dans le discours théologique, intégrer le fait de la foi et de l'expérience religieuse.
Comment est-ce qu'il y est arrivé ?
Ah, je pense qu'il y est remarquablement arrivé, justement. Il y est arrivé d'un point de vue personnel, je crois, dans sa propre manière de se présenter, de se positionner. Je pense que de Lubac arrive à intégrer l'expérience religieuse pour une raison assez simple, finalement. C'est qu'il entre en dialogue avec le monde. Et très concrètement, Lubac, en 14-18, pendant la guerre, la Première Guerre mondiale, avait 20 ans. Il se trouve dans les tranchées à Verdun. Il raconte que c'est dans les tranchées qu'il discute avec un instituteur laïque. Ce type de rencontre, il ne l'aurait pas fait s'il n'y avait pas eu l'événement, malheureux naturellement, mais en l'occurrence heureux, de la guerre pour cette rencontre. Donc il est dans un dialogue constant avec chacun pour essayer d'intégrer justement l'expérience de chacun et la sienne propre dans sa réflexion théologique. Mais ça, c'est aussi un événement qui a lieu au milieu du XXe siècle.
Est-ce qu'on peut dire, Brigitte Cholvy, que vous êtes une disciple d'Henri de Lubac?
Je pense que quand on travaille sur un auteur de longues années dans le cadre d'une recherche, on devient aussi un compagnon, en tous les cas, de cet auteur, si ce n'est un disciple, et un compagnon dans une grande sympathie, hein, sympathie au sens d'un souffrir avec, quasiment. Hein. Je crois que là, il y a une actualité de Lubac, qui est précisément, on est en 2010, donc on n'est plus dans le contexte dans lequel il était et dans lequel il a écrit, bien évidemment. Mais il y a une actualité qui est, au fond, une attention à l'altérité, à la rencontre de l'autre, avec la conviction que, en tout homme, quelle que soit sa situation, même s'il n'a jamais été christianisé, même s'il a été déchristianisé, enfin, toutes les situations peuvent exister, en tout homme, il y a quelque chose qui est de la trace de Dieu, et c'est ce quelque chose qu'il faut réveiller, évidemment, pour l'inviter à aller plus loin.
Pourquoi Henri de Lubac? Et pourquoi ce sujet du surnaturel?
Tout simplement parce que j'enseignais l'anthropologie déjà dans les années précédant mon travail de thèse. Dans le traité sur l'homme, il y a le mot surnaturel. Et qu'en fait, dans mes cours, je ne l'utilisais pas. Donc j'avais une vraie question, il y avait une vraie incohérence dans mon travail. Donc je me suis dit, est-ce que vraiment je ne l'utilise pas parce que c'est normal de ne pas l'utiliser? Ou est-ce qu'il y a une faille quelque part? Creusons la faille, allons voir. C'est vraiment une question qui vient de mon enseignement. Ou d'une déficience, on pourrait dire, de l'enseignement. Et puis après, se posant la question du surnaturel et en cherchant plutôt dans la théologie française, j'avais envie de travailler ce XXe siècle français, qui est un grand siècle, je crois, de théologie. En cherchant, bon, je suis tellement vite tombée sur de Lubac, qui est évidemment le héros, si on peut dire, le grand théologien de cette question. Donc les choses ont convergé assez vite, mais elles venaient d'une question assez pratique pour moi, qui était une question de l'enseignement.
Vous êtes professeur de théologie, qu'est-ce que vous répétez à vos étudiants? Qu'est-ce que vous aimez leur dire? Ou qu'est-ce que vous aimeriez, à la fin d'un semestre, une chose que vous aimeriez qu'ils aient vraiment compris?
Je crois que peut-être à la fin d'un cours de théologie, ce qui me paraît la chose à avoir acquise, quel que soit par ailleurs le contenu sur lequel on a pu travailler, les textes qu'on a dû lire, parce que ça c'est très important aussi, et qu'on a dû prendre en connaissance, et la tradition qu'on a dû intégrer, c'est peut-être qu'à chaque fois, ce soit bien vers plus de liberté que ça ait conduit les étudiants, et le professeur aussi d'ailleurs, hein, enfin tous ceux qui ont participé à ce travail. Un discours qui fasse que la vie soit plus grande, plus libre, plus réelle. Et est-ce que la théologie y aide réellement? Ou au contraire, est-ce que ça nous enfermerait, le cas échéant, dans des cases, dans des principes? Non, je pense qu'un cours de théologie rend plus libre, parmi beaucoup d'autres choses, un des exercices de la foi. Hein, la théologie ne correspond pas à tous les exercices de la foi, mais la théologie rend plus libre. Et si à l'issue d'un cours de théologie, grâce à tel ou tel travail sur tel ou tel dossier, c'est à ça qu'on est parvenu, tous ensemble, hein, professeurs et étudiants ensemble, je pense qu'on a gagné quelque chose, tous ensemble.